Chapitre 14. Plaidoyer de mon oncle devant le bailli. Le samedi suivant, veille de la cérémonie du baptême, mon oncle était cité à comparaître par devant monsieur le bailli pour s'entendre condamner par corps à payer au sieur Bontain la somme de 150 francs 10 sols 6 deniers pour marchandises à lui vendues. Ainsi s'exprimait la cédule dont le coût était de 4 francs 5 sols. Un autre que mon oncle eût déploré son sort sur tous les tons de l'élégie, mais l'âme de ce grand homme était inaccessible aux atteintes de la fortune. Ce tourbillon de misère que la société soulève autour d'elle, cette vapeur de larmes dont elle est enveloppée, ne pouvait monter jusqu'à lui. Il avait son corps au milieu des fanges de l'humanité. Quand il avait trop bu, il avait mal à la tête. Quand il avait marché trop longtemps, il était là. Quand le chemin était trop boueux, il se crottait jusqu'à l'échine. Enfin, quand il n'avait pas d'argent pour payer son écho, l'aubergiste le couchait sur son grand livre. Mais comme l'écueil dont le pied est battu par les vagues et dont le front rayonne de soleil, comme l'oiseau qui a son nid dans les buissons du chemin et qui vit au milieu de l'azur des cieux, son âme planait dans une région supérieure, toujours calme et sereine. Il n'avait, lui, que deux besoins, la faim et la soif. Et si le firmament fut tombé en éclats sur la terre et qu'il eût laissé une bouteille intacte, mon oncle eût tranquillement vidé à la résurrection du genre humain, écrasé sur un quartier fumant de quelque étoile. Pour lui, le passé n'était rien et l'avenir n'était pas encore quelque chose. Il comparait le passé à une bouteille vide et l'avenir à un poulet prêt à être mis à la broche. « Que m'importe, disait-il, quelle liqueur a contenu la bouteille ? Et pour le poulet, pourquoi me ferais-je rôtir moi-même à le faire passer et repasser devant l'âtre ? Peut-être, quand il sera cuit à point, que le couvert sera dressé et que je me serai revêtu de ma serviette, surviendra un molosse qui emportera la violaille fumante entre ses dents. Éternité, néant, passé, sombres abîmes, s'écrit le poète. Pour moi, pour tout ce que je voudrais retirer de ce sombre abîme, c'est mon dernier habit rouge, s'il surnageait à ma portée. La vie est tout entière dans le présent, et le présent, c'est la minute qui passe. Or, que me fait à moi un bonheur ou un malheur d'une minute ? Voici un mendiant et un millionnaire. Dieu leur dit, vous n'avez qu'une minute à rester sur la terre. Cette minute écoulée, il en raccorde une seconde, puis une troisième. Et il les fait vivre ainsi jusqu'à 90 ans. Et croyez-vous que l'un est bien plus heureux que l'autre ? Toutes les misères qui affligent l'homme, c'est lui-même qui en est l'artisan. Les jouissances qu'il s'élabore ne valent pas le quart de la peine qu'il se donne pour les acquérir. Il ressemble à un chasseur qui bat toute la journée la campagne pour un lièvre étique ou une carcasse de perdrix. Nous nous vantons de la supériorité de notre intelligence. Mais qu'importe que nous mesurions le cours des astres, que nous puissions dire à une seconde près à quelle heure la lune se trouvera entre la terre et le soleil, que nous parcourions les solitudes de l'océan avec des nageoires de bois ou avec des ailes de chanvre, si nous ne savons pas jouir des biens que Dieu a mis dans notre existence. Les animaux que nous insultons du nom de brutes en savent bien autrement long que nous sur les choses de la vie. L'une se vautre dans l'herbe et la broute sans s'inquiéter si elle repoussera. L'ours ne va point garder les troupeaux d'un fermier afin d'avoir des mitaines et un bonnet fourré pour son hiver. Le lièvre ne se fait pas tambour d'un régiment dans l'espoir de gagner du sang pour ses vieux jours. Le vautour ne se fait pas facteur de la poste pour avoir tout autour de son cou chauve un beau collier d'or. Tous sont contents de ce que la nature leur a donné, du lit qu'elle leur a préparé, dans l'herbe des bois, du toit qu'elle leur a fait avec les étoiles et l'azur du firmament. Aussitôt qu'un rayon luit sur la plaine, l'oiseau se met à gazouiller sur la branche. L'insecte bourdonne autour du buisson. Le poisson se joue à la surface de son étang. Le lézard flâne sur les pierres chaudes de sa masure. Et si quelque ondée tombe du nuage, chacun se réfugie dans son asile et s'y endort paisiblement en attendant le soleil du lendemain. Et alors pourquoi l'homme n'en fait-il pas autant? N'en déplaise au grand roi Salomon, la fourmi le plus sot des animaux, au lieu de jouer dans la prairie pendant la belle saison, de prendre sa part de cette magnifique fête que le ciel pendant 6 mois donne à la terre, elle perd tout son été à mettre l'un sur l'autre des petits brins de feuilles. Puis quand sa cité est achevée, pense avant qu'il a balai de son aile. Benjamin donc fit griser l'huissier de bon teint et enveloppa de longs de la mer avec le papier timbré de la cédule. Monsieur le bailli, devant lequel devait comparaître mon oncle, est un personnage trop important pour que je néglige de vous faire son portrait. D'ailleurs, mon grand-père, à son lit de mort, me l'a expressément recommandé, et pour rien au monde, je ne voudrais manquer à ce pieux devoir. Monsieur le bailli, donc, était né, comme tant d'autres, de parents pauvres. Son premier linge avait été taillé dans une vieille capote de gendarme. Il avait commencé ses études de jurisprudence par nettoyer le grand sabre de monsieur son père et par étriller son cheval rouge. Je ne saurais vous dire, expliquer comment, du dernier rang de la hiérarchie judiciaire, monsieur le bailli s'était élevé à la plus haute magistrature du pays. Tout ce que je puis vous dire, c'est que le lézard parvient aussi bien que l'aigle au sommet des grands rochers. Monsieur le bailli, entre autres manies, avait celle d'être un grand personnage. L'infériorité de son origine faisait son désespoir. Il ne concevait pas comment un homme comme lui n'était pas né gentilhomme. Il attribuait cela à une erreur du Créateur. Il aurait donné sa femme, ses enfants et son greffier pour un chétif morceau de blason. La nature avait été assez bonne mère envers monsieur le bailli, et à la vérité, elle lui avait fait sa part d'intelligence, ni trop grosse, ni trop petite, mais il y avait ajouté une bonne dose d'astuce et d'audace. Monsieur le bailli n'était ni sot ni spirituel. Il se tenait sur la lisière des deux camps, avec cette différence toutefois qu'il n'avait jamais posé le pied dans celui des gens d'esprit, mais que sur le terrain facile et ouvert de l'autre, il faisait de fréquentes excursions. Ne pouvant avoir l'esprit des hommes spirituels, monsieur le bailli s'est contenté de celui des sots. Il faisait des calembours, et ces calembours, les procureurs et leurs femmes, se faisaient un devoir de les trouver fort jolis. Son greffier était chargé de les répandre dans le public et même de les expliquer aux intelligences émoussées qui d'abord n'en comprenaient pas le sens. Grâce à cet agréable talent de société, monsieur le bailli s'était acquis dans un certain monde comme une réputation d'homme d'esprit, mais cette réputation, mon oncle disait qu'il l'avait payée en fausse monnaie. Monsieur le bailli était-il honnête homme? Moi, je n'oserais vous dire le contraire. Vous savez que le code définit les voleurs, et que la société tient pour honnêtes gens tous ceux qui ne sont en dehors de la définition. Or, monsieur le bailli n'était point défini par le code. Monsieur le bailli, à force d'intrigue, était parvenu à diriger non seulement les affaires, mais encore les plaisirs de la ville. Comme magistrat, monsieur le bailli était un personnage assez peu recommandable. Il comprenait bien la loi, mais quand elle contrariait ses aversions ou ses sympathies, il la laissait dire. On l'accusait d'avoir à sa balance un plateau d'or et un plateau de bois, et au fait, je ne sais comment cela arrivait, mais ses amis avaient toujours raison et ses ennemis toujours tort. S'il s'agissait d'un délit, ceux-ci avaient encouru le maximum de la peine. Encore, s'il avait pu le faire plus gros, il aurait amplifié de bon cœur. Toutefois, la loi ne veut pas toujours fléchir. Quand monsieur le bailli se trouvait dans la nécessité de se prononcer contre un homme dont il craignait ou espérait quelque chose, il se tirait d'affaire en se récusant, et il faisait vanter par sa coterie son impartialité. Monsieur le bailli visait à l'admiration universelle. Il détestait cordialement, mais en secret, ce qu'il effaçait par une supériorité quelconque. Si vous aviez l'air de croire à son importance, si vous alliez lui demander sa protection, vous le rendiez le plus heureux du monde. Mais si vous lui refusiez un coup de votre chapeau, cette injure s'incrustait profondément dans sa mémoire, elle y faisait plaie, et eussiez-vous vécu 100 ans, et lui aussi, jamais il ne vous voulut pardonner. Malheur donc à quelque affaire à l'infortuné qui s'abstenait de saluer monsieur le bailli. Si quelque affaire l'amenait devant son tribunal, il le poussait par quelque avanie bien combinée à lui manquer de respect. La vengeance devenait alors pour lui un devoir. Il faisait mettre notre homme en prison tout en déplorant la fatale nécessité que lui imposaient ses fonctions. Souvent même, pour mieux faire croire à sa douleur, il avait l'hypocrisie de se mettre au lit, et dans les grandes occasions, il allait jusqu'à la saigner. Monsieur le bailli faisait la cour à Dieu comme aux puissances de la terre. Il ne se passait jamais de la grande messe, et il se passait toujours au beau milieu du banc d'œuvre. Cela lui rapportait tous les dimanches une part de pain béni avec la protection du curé. S'il eût pu faire constater par un procès-verbal qu'il avait assisté à l'office, sans aucun doute il l'eût fait. Mais ses petits défauts étaient compensés chez monsieur le bailli par de brillantes qualités. Personne ne s'entendait mieux que lui à organiser un bal aux frais de la ville ou un banquet en l'honneur du duc de Nivernais. Dans ses jours solennels, il était magnifique de majesté, d'appétit et de calembour. Lamoignon ou le président Molé eussent été auprès de lui de bien petits hommes. En récompense des éminents services qu'il rendait à la ville, il espérait depuis 10 ans la croix de Saint-Louis. Et quand, après ses campagnes d'Amérique, Lafayette en fut décoré, oh, il cria tout bas à l'injustice. Tel était au moral monsieur le bailli. Au physique, oh, c'était un gros homme, quoiqu'il n'eût pas encore atteint toute sa majesté, sa personne ressemblait à une ellipse renflée par le bas. Vous auriez pu le comparer à un œuf d'autruche qui eût eu 2 jambes. La perfide nature, qui a donné sous un ciel de feu au mancelinier un vaste et épais ombrage, avait accordé à monsieur le bailli l'effigie d'un honnête homme. Aussi avait-il beaucoup à poser, et c'était un beau jour dans sa vie quand il pouvait aller escorté de pompiers du tribunal à l'église. Monsieur le bailli se tenait toujours raide comme une statue sur son piédestal. Si vous l'eussiez connu, vous eussiez dit qu'il avait un emplâtre de poids de Bourgogne ou un vaste vésicatoire entre les 2 épaules. Il allait dans la rue comme s'il eût porté un Saint-Sacrement. Son pas était invariable comme une demi-aune. Une averse de hallebarde ne lui eût pas fait d'allonger d'un pouce. Avec monsieur le bailli pour unique instrument, un astronome eût pu mesurer un arc du méridien. Mon oncle n'haïssait point monsieur le bailli. Il ne daignait pas même le mépriser. Mais en présence de cette abjection morale, il éprouvait comme un soulèvement de son âme. Il disait quelquefois que cet homme lui faisait l'effet d'un gros crapaud accroupi dans un fauteuil de velours. Pour monsieur le bailli, il haïssait Benjamin avec toute l'énergie de son âme bilieuse. Celui-ci ne l'ignorait pas, mais il s'en mettait peu en souci. Pour ma grand-mère, craignant un conflit entre ces 2 natures si diverses, elle voulait que Benjamin s'abstînt de paraître à l'audience. Mais le grand homme, qui avait confiance dans la force de sa volonté, avait dédaigné ce timide conseil. Seulement, le samedi matin, il s'était abstenu de prendre sa ration accoutumée de vin chaud. L'avocat de Bontain prouva du reste que son client avait le droit de réclamer contre mon oncle un jugement par corps. Quand il eut achevé et parachevé sa démonstration, le bailli demanda à Benjamin ce qu'il avait à léguer pour sa défense. « Bon, je n'ai qu'une simple observation à faire, » dit mon oncle. « Mais vaut bien mieux que tout le plaidoyer de monsieur, car elle est sans réplique. J'ai 5 pieds 9 pouces au-dessus du niveau de la mer et 6 pouces au-dessous du vulgaire des hommes, je pense. » Monsieur Rattray, interrompit le bailli, tout grand homme que vous êtes, vous n'avez pas le droit de plaisanter avec la justice. Oh, si j'avais envie de plaisanter, dit mon oncle, ce serait pas avec un personnage aussi puissant que monsieur le bailli, dont la justice d'ailleurs ne plaisante pas, mais quand je dis que j'ai 5 pieds 9 pouces au-dessus du niveau de la mer, c'est pas une plaisanterie que je fais, c'est un moyen sérieux de défense que je présente. Monsieur le bailli peut me faire mesurer s'il doute de la vérité de ma déclaration. Je pense donc. Monsieur Rattray, expliqua vivement le bailli, si vous continuez sur ce ton, je serai obligé de vous retirer la parole. Bon, c'est pas la peine, répondit mon oncle, car voilà que j'ai fini. Je pense donc, ajouta-t-il en précipitant ses syllabes l'une sur l'autre, qu'on ne peut pas saisir au corps un homme de ma taille pour 50 misérables écus. « Mais à votre compte, dit le bailli, la contrainte par corps ne pourrait s'exercer que sur un de vos bras, une de vos jambes, peut-être bien même sur votre queue. »« D'abord, répliqua mon oncle, je ferai observer à monsieur le bailli que ma queue n'est pas en cause. Ensuite, je n'ai pas la prétention que m'attribue monsieur le bailli. Je suis né indivis et je prétends bien rester indivis toute ma vie. » Mais comme le gage vaut au moins le double de la créance, je prie monsieur le bailli d'ordonner que la sentence par corps ne pourra être exécutée qu'après que Bontain m'aura fourni 3 autres habits rouges. Mais monsieur Rattray, vous n'êtes pas ici au cabaret. Je vous prie de vous souvenir à qui vous parlez. Vos propos deviennent aussi inconsidérés que votre personne. Monsieur le bailli, j'ai bonne mémoire et je sais très bien à qui je parle. J'ai été trop soigneusement élevé par ma chère sœur dans la crainte de Dieu et des gendarmes pour que je l'oublie. Oh, quant au cabaret, puisqu'il est ici question de cabaret, il est trop bien apprécié des hommes et des gens pour qu'il ait besoin que je le réhabilite. Si nous allons au cabaret, nous, c'est que quand nous avons soif, nous n'avons pas le privilège de nous rafraîchir aux frais de la ville. Le cabaret, c'est la cave de ceux qui n'en ont point. Et la cave de ces galantunes, ce n'est autre chose qu'un cabaret sans bouchon. Ici à bas, là, ceux qui boivent une bouteille de Bourgogne et autre chose à leur dîner, de vilipender le pauvre diable, qui se régale par-ci par-là au cabaret d'une pinte de Croix-Pâteau. Ces orgies officielles où l'on s'enivre en portant des toasts au roi et au duc de Nivernais, mais c'est tout simplement une euphonie à part, ce que le peuple appelle une ribote. S'enivrer à sa table, c'est plus décent. Mais se griser au cabaret, c'est plus noble et surtout plus profitable au trésor. Pour la considération qui s'attache à ma personne, elle est moins étendue que celle que peut revendiquer monsieur le bailli pour la sienne. Attendu que moi, je ne suis considéré que des honnêtes gens, mais... « Monsieur Rattray, s'écria le bailli, ne tombant point aux épigrammes dont le harcelait mon oncle de réponse, meilleur et plus facile, vous êtes un insolent. »« Soit, répliqua Benjamin, secouant un fétu qui s'est attaché au revers de son habit, mais je dois en conscience prévenir monsieur le bailli que je me suis renfermé ce matin dans les bancs de la plus stricte tempérance. » Qu'ainsi, s'il cherchait à me faire sortir du respect que je dois à sa robe, il en serait pour ses frais de provocation. « Monsieur Rattray, fit le bailli, vos allusions sont injurieuses à la justice. Je vous condamne à 30 sous d'amende. »« Voilà 3 francs, dit mon oncle. mettant un petit écu sur la table verte du juge. « Payez-vous !»« Monsieur Ratrice !» s'écria le bailli, exaspéré. « Sortez !»« Monsieur le bailli, j'ai l'honneur de vous saluer. Mes compliments, madame la baillive, s'il vous plaît. »« 40 sous d'amende de plus !» hurla le juge. « Comment ?» dit mon oncle. « 40 sous d'amende parce que je présente mes compliments, madame la baillive ?» Et il sortit. « Ce diable d'homme !» disait le soir M. le bailli à sa femme. « Jamais je me serais imaginé qu'il fût si modéré, mais qu'il se tienne bien. J'ai lâché contre lui une contrainte par corps et je parlerai à Montin pour qu'il la fasse exécuter de suite. Il apprendra ce que c'est que de me braver. Quand je l'inviterai aux fêtes données par la ville, il fera chaud. Et si je peux lui accorder sa clientèle... « Fuis donc, monsieur le bailli, » lui répondit sa femme, « sont-ce là les sentiments d'un homme de bandeuvre ? Et que vous a donc fait, monsieur Ratry ? C'est un homme si gai, si bien tourné, si aimable. »« Ce qu'il m'a fait, madame la baillive, mais il a osé me rappeler que votre beau-père était un gendarme. Et d'ailleurs, il a plus d'esprit, il est plus honnête homme que moi. Croyez-vous que ce soit un peu de chose ?» Et le lendemain, mon oncle ne pensait plus à la contrainte par corps obtenue contre lui. Il se dirigeait vers l'église, poudré, solennel, Mademoiselle Minxit au côté droit et son épée au côté gauche. Il était suivi de Page, qui faisait la coquelle en son habit noisette, d'Artus, dont l'abdomen était enveloppé jusqu'au-delà de son diamètre d'un gilet à grand ramage, entre lesquels voltigeaient de petits oiseaux, de Miorato, qui portait une perruque couleur de brique et dont les tibias gris de lin étaient jaspés de noir, et d'un grand nombre d'autres dont il ne me plaît pas de livrer les noms à la postérité. Parlanta seul manquait à l'appel. Deux violons piaulaient à la tête du cortège. Machecourt et sa femme fermaient le banc. Benjamin, toujours magnifique, semait sur son passage les dragées, les liards de l'inoculation. Gaspard, tout fier de lui servir de poche, se servait et se tenait à ses côtés, portant dans un grand sac les dragées de la cérémonie. Chapitre 15. Comment mon oncle fut arrêté par Parlanta dans ses fonctions de parrain et mis en prison. Mais voici bien une autre fête. Parlanta avait reçu de Bontin et du bailli l'ordre express d'exécuter la contrainte par corps pendant la cérémonie. Il avait embusqué ses recors dans le vestibule du tribunal et lui-même attendait le cortège sous le portail de l'église. Aussitôt qu'il vit le tricorne de mon oncle débouché par l'escalier de vieille Rome, il alla à lui et le somma, au nom du roi, de le suivre en prison. « Parlanta, répondit mon oncle, « ce que tu fais là est peu conforme aux règles de la politesse française. Pourrais-tu pas attendre à demain pour opérer ma confiscation et venir aujourd'hui dîner avec nous ?»« Ben, si tu tiens beaucoup, dit Parlanta, j'attendrai. Mais je te préviens que les ordres du bailli sont précis. » Et que je cours risque, si je passe outre, d'encourir ce ressentiment dans cette vie et dans l'autre. Bon, cela étant, fais ton devoir, dit Benjamin. Et il alla prier Page de prendre sa place à côté de Mademoiselle Minxit. Puis s'inclinant devant celle-ci, avec toute la grâce que comportaient ses 5 pieds 9 pouces. Oui, mademoiselle, lui dit-il, je suis forcé de me séparer de vous. Oh, je vous prie de croire qu'il ne faut rien moins qu'une sommation au nom de sa majesté pour m'y déterminer. J'aurais voulu que Parlanta me laissât jouir jusqu'au bout du bonheur de cette cérémonie, mais ces huissiers, ils sont comme la mort, ils saisissent leur proie partout où elles se rencontrent. Ils l'arrachent violemment du bras de l'objet aimé, comme un enfant qui arrache par ses ailes de gaz un papillon du calice d'une rose. « Mais c'est aussi désagréable pour moi que pour vous, » dit Mademoiselle Minxit, faisant une grosse moue comme le poing. « Votre ami est un petit homme rond comme une pelote et qui porte une perruque à marteau. Fait avoir l'air à côté de lui d'une grande perche. Mais que voulez-vous que j'y fasse ? Répliqua sèchement Benjamin, offensé de tant d'égoïsme. Je ne puis ni vous renier, ni amincir M. Page, ni lui prêter ma queue. Benjamin prit congé de la société, suivi par Lanta, en sifflant son air favori. Malbrou, ça va, ton guerre ? Il s'arrêta un moment sur le seuil de la prison pour jeter un dernier regard sur ces espaces libres qui allaient se fermer derrière lui. Il aperçut sa sœur immobile au bras de son mari qui le suivait d'un regard désolé. À cette vue, il tira violemment la porte derrière lui et s'élança dans la cour. Le soir, mon grand-père et sa femme vinrent le voir. Ils le trouvèrent perché en haut d'un escalier qui jetait à ses compagnons de captivité le reste de ses dragées et qui riait comme un bienheureux de les voir se bousculer pour les prendre. « Mais que diable fais-tu là ? » dit mon grand-père. « Ben, tu le vois bien, » répondit Benjamin. « J'achève la cérémonie du baptême. Ne trouves-tu pas que ces hommes qui s'agitent à nos pieds pour ramasser de fades sucreries représente fidèlement la société. N'est-ce pas ainsi que les pauvres habitants de cette terre se poussent, s'écrasent, se renversent pour s'arracher les biens que Dieu a jetés au milieu d'eux? N'est-ce pas ainsi que font la foule, le faible aux pieds, ainsi que le faible saigne et crie, ainsi que celui à tout prix insulte par sa superbe ironie à celui auquel il n'a rien laissé? Ainsi enfin que quand celui-ci ose se plaindre, l'autre lui donne de son pied au derrière. Ces pauvres diables sont haletants, couverts de sueur. Ils ont les doigts meurtris, la figure déchirée. Aucun n'est sorti de la lutte sans une écorchure quelconque. S'ils avaient écouté leur intérêt, bien entendu, plutôt que leur farouche instinct de convoitise, au lieu de se disputer ces dragées en ennemis, ne se laisseraient-ils pas partager en frères? « Mais c'est possible, » dit Machecourt. « Mais tâche de ne pas trop t'ennuyer ce soir et de bien dormir cette nuit, car demain matin, tu seras libre. »« Comment cela ?» fit Benjamin. « Mais c'est, » répondit Machecourt, « que pour te tirer l'affaire, nous avons vendu notre petite vigne de Choulot. » « Et le contrat est-il signé ?» demanda Benjamin avec anxiété. « Pas encore, » dit mon grand-père, « mais nous avons rendez-vous pour le signer ce soir. »« Eh bien, toi, Machecourt, et vous, ma chère sœur, faites bien attention à ce que je vais vous dire. Si vous vendez votre vigne pour me tirer des griffes de Bortin, le premier usage que je ferai de ma liberté, ce sera de quitter votre maison et votre vie. Vous ne vous reverrez plus. »« Mais cependant, » dit Machecourt, « il faut bien qu'il en soit ainsi. On est frères ou on n'est pas. Je ne peux pas te laisser en prison quand j'ai entre les mains des moyens de te rendre ta liberté. Tu prends les choses en philosophe, toi, mais moi, je suis pas philosophe. Tant que tu seras ici, je pourrai manger un morceau d'y boire un verre de vin blanc qui me profite. Et moi, dit ma grand-mère, crois-tu que je pourrais m'habituer à ne plus te voir ? Est-ce que c'est pas à moi que notre mère t'a recommandé à son lit de mort ? Est-ce que c'est pas moi qui t'ai élevé ? Est-ce que je ne te garde pas comme l'aîné de mes enfants ? Et ces pauvres enfants, mais c'est pitié de les voir depuis que tu n'es plus avec nous. On dirait qu'il y a un cercueil dans la maison. Ils voudraient tous nous suivre pour te voir. Et la petite Nanette n'a jamais voulu toucher à sa croûte de pâté, disant qu'elle la gardait pour son oncle Benjamin, qui était en prison, et qui n'avait que du pain noir à manger. « C'en est trop !» dit Benjamin, poussant mon grand-père par les épaules. « Va-t'en, Machecourt, et vous aussi, ma chère sœur, allez-vous-en, je vous en prie, quand vous me feriez commettre une faiblesse. Mais je vous en préviens, si vous avisez de vendre votre vigne pour payer ma rançon, jamais de ma vie je ne vous reverrai. Allons, grand niais !» poursuivit ma grand-mère. Est-ce d'un frère ne vaut pas mieux qu'une vigne? Ne ferais-tu pas pour nous ce que nous faisons pour toi, si l'occasion se présentait, et quand tu seras riche, ne nous aideras-tu pas à établir nos enfants? Avec ton état et tes talents, tu peux nous rendre au centuple ce que nous te donnons aujourd'hui. Et que dirait-on de nous, mon Dieu, dans le public, si nous te laissions sous les verrous pour une dette de 150 francs? Allons, Benjamin, sois bon frère. Ne nous rends pas tous malheureux en t'obstinant à rester ici. » Pendant que ma grand-mère parlait, Benjamin avait sa tête cachée entre ses mains et cherchait à comprimer les larmes qui s'amassaient sous sa paupière. « Machecourt ! » s'écria-t-il tout d'un coup. « Oh, n'en puis plus ! Fais-moi apporter un petit verre par Boutron et viens m'embrasser. » « Tiens, dit-il en le pressant sur sa poitrine, à le faire crier, tu es le premier homme que j'embrasse, et depuis la dernière fois que j'ai eu le fouet, voilà les premières larmes que je verse. » Et en effet, il fondait en larmes, mon pauvre oncle. Mais le geôlier ayant apporté deux petits verres, il n'eut pas plutôt vidé le sien, qui devint calme et azuré, comme un ciel d'avril après une averse. Ma grand-mère chercha de nouveau à l'attendrir, mais il resta froid sous ses paroles comme un glaçon sous les rayons de la lune. La seule chose qui le préoccupa, c'était que le geôlier l'eût vu pleurer. Il fallut donc, bon gré mal gré, que Machecourt gardât sa vigne. Chapitre 16. Un déjeuner en prison, comment mon oncle sortit de prison. Le lendemain matin, comme mon oncle se promenait dans le cours de la prison, sifflant un air connu, Artus entra, suivi de trois hommes qui portaient des hottes couvertes de linge blanc. « Bonjour, Benjamin » s'écria-t-il. « Allons venons déjeuner avec toi, puisque tu ne peux plus venir déjeuner avec nous. » En même temps, défilaient Page, Rapin, Guilleran, Miorato et Machecourt. Parlonta se tenait en arrière, un peu décontenancé, et mon oncle alla à lui et lui prenant la main. « Eh bien, Parlonta, lui dit-il, est-ce que tu me gardes rancune de ce que je t'ai fait hier manquer un bon dîner ?»« Au contraire, répondit Parlonta, j'avais peur que tu m'en voulusses toi-même de ce que je ne t'avais pas laissé achever ton baptême. »« Sais-tu bien, Benjamin ?» interrompit Page. Que nous nous sommes cotisés pour te tirer d'ici, mais comme nous ne sommes pas en argent comptant, en faisant comme si l'argent n'était pas inventé, nous donnons à bon temps nos services respectifs, chacun selon sa profession. Oh, je lui prendrai sa première affaire. Parlant à lui, il riffonnera deux assignations. Artus lui fera son testament. Rapin lui donnera deux ou trois consultations, qui lui coûteront plus cher qu'il ne pense. Guillaume donnera tant bien que mal des leçons de grammaire à ses enfants. Et Rato, qui n'est rien, attendu qu'il est poète, s'engage sur l'honneur à acheter chez lui tous les habits dont il aura besoin pendant 2 ans, ce qui, selon moi et lui, ne l'engage pas à grand-chose. « Et Bonta accepte-t-il » dit Benjamin. « Comment ? » dit Bonta, Page. « S'il accepte, mais... il reçoit des valeurs pour plus de 500 francs. Oui, c'est Rapin qui a arrangé cette affaire hier avec lui. Il n'y a plus qu'à rédiger les conditions. Eh bien, dit mon oncle, alors je veux prendre ma part de cette bonne action. Alors je m'engage, moi, à le traiter sans mémoire aucun des deux premières maladies qui lui viendront. Si je le tue de la première, sa femme aura la survivance pour la seconde. Quant à toi, Machecourt, je te permets de souscrire pour un broc de vin blanc. » Pendant ce temps-là, Artus avait fait dresser la table chez le geôlier. Il lirait lui-même de leur honte ses plats qui s'étalaient un peu transvasés les uns dans les autres, et il les mettait dans leur ordre et place sur la table. Quand tout fut arrangé à sa fantaisie, « Allô ! » s'écria-t-il à table. Et trêve de bavardage, je n'aime pas être dérangé quand je mange. Vous aurez tout le temps de jaser au désert. Le déjeuner ne se ressentait nullement du lieu où il se célébrait. Marchecourt était un peu triste, car l'arrangement pris avec Bontain par les amis de mon oncle lui semblait une plaisanterie. « Allons donc, Machecourt, s'écria Benjamin, ton verre est toujours dans la même main plein ou vide. Est-ce moi qui suis ou toi qui es prisonnier, je te prie ? À propos, messieurs, savez-vous que Machecourt a failli hier commettre une bonne action ? Il voulait vendre sa bonne vigne de Choulot pour payer ma rançon à Bontain. Mais c'est magnifique ! S'écria Page. C'est succulent, dit Artus. C'est un trait comme j'en vois dans la morale en action, poursuivit Guilleran. Monsieur, interrompit Rapin, il faut adorer la vertu partout où on a le bonheur de la posséder. Je propose donc que toutes les fois que Machecourt sera à table avec nous, il lui soit décerné un fauteuil. Adopté ! S'écrièrent ensemble tous les convives, et à la santé de Machecourt. Ma foi, dit mon oncle, je ne sais pas pourquoi on a si peur de la prison. Ce chapeau est-il pas aussi tendre et ce bordeaux aussi parfumé de ce côté-ci que de l'autre côté du guichet ? Oui, dit Guilleran, tant qu'il y a de l'herbe le long du mur où elle est attachée, la chèvre ne sent pas son lien, mais quand la place est nette, elle se tourmente et cherche à le rompre. Oh, elle est de l'herbe qui croît dans la vallée, répondit mon oncle, à celle qui croît sur la montagne pour la liberté de la chèvre. Mais la liberté de l'homme, c'est de ne faire que ce qui lui convient. Celui dont on a confisqué le corps et auquel on laisse la faculté de penser à son gré est 100 fois plus libre que celui dont on tient l'âme captive aux chaînes d'une occupation odieuse. Le prisonnier passe sans doute de tristes heures à contempler, à travers ses barreaux, le chemin qui fuit dans la plaine et va se perdre sous les ombrages bleuâtres de quelque lointaine forêt. Oui, voudrait être la pauvre femme qui mène sa vache le long du chemin en tournant son fuseau, ou le pauvre bûcheron qui s'en va couvert de ramée vers sa chaumine qui fume par-dessus les arbres. Mais cette liberté d'être où l'on voudrait d'aller droit devant soi tant qu'on n'est pas là ou qu'on n'est pas arrêté par un fossé, à qui appartient-elle? Le paralytique n'est-il pas en prison dans son lit? Le marchand dans sa boutique? L'employé dans son bureau? Le bourgeois entre l'enceinte de sa petite ville? Le roi entre les limites de son royaume? Et Dieu lui-même entre cette conférence glacée qui borne les mondes. Tu vas, haletant et ruisselant de sueur, sur un chemin brûlé par le soleil. Voici de grands arbres qui étalent à côté de toi leur rosetage de verdure et qui secouent comme par ironie leurs feuilles jaunes sur ta tête. Oh, tu voudrais bien, n'est-ce pas, te reposer un instant sous leurs ombres, essuyer tes pieds dans la mousse qui tapisse leurs racines. Mais entre eux et toi, il y a 6 pieds de mur, ou les barreaux acérés d'une grille. Artus, Rapia et vous tous, qui n'avez qu'un estomac, qui ne savez que dîner après avoir déjeuné, bon, je ne sais pas si vous me comprenez, mais Miorato, qui est ailleurs et qui fait des noëls, me comprendra lui. J'ai souvent désiré suivre dans ces pérégrinations vagabondes le nuage qui s'en allait au vent par le ciel. Souvent, quand j'ai accoudé sur ma fenêtre, je suivais en rêvant la lune qui semblait me regarder comme une face humaine, mais j'aurais voulu m'envoler comme une bulle d'air vers ces mystérieuses solitudes qui passaient au-dessus de ma tête. Et je relais tout au monde pour m'asseoir un instant sur un de ces gigantesques pitons qui déchirent la blanche surface de la planète. N'étais-je pas alors aussi captif sur la terre que le pauvre prisonnier entre les hautes murailles de sa prison ? Messieurs, dit Page, il faut convenir d'une chose, la prison est trop bonne et trop douce pour le riche. Elle le corrige à un enfant gâté, comme cette neuf qui donnait le fouet à l'amour avec une rose. Si vous permettez aux riches d'apporter dans sa prison sa cuisine, sa cave, sa bibliothèque, son salon, c'est plus un condamné qu'on punit, c'est un bourgeois qui change de logis. Vous êtes là devant un bon feu, enchâssé dans la ouate de votre bonne chambre. Vous digérez les pieds sur vos chenets, l'estomac tout parfumé de truffes et de champagne. La neige voltige au barreau de votre fenêtre. Vous, cependant, vous jetez vers le plafond la blanche fumée de votre cigare. Vous rêvez, vous pensez, vous faites des châteaux en Espagne ou des vers. Et à côté de vous est votre gazette. C'est un vie qu'on quitte, qu'on rappelle et que l'on congédie définitivement quand il devient trop ennuyeux. Mais qu'y a-t-il donc, dites-le-moi, dans cette situation qui ressemble à une peine? N'avez-vous pas ainsi passé sans sortir de chez vous des heures, des jours, des semaines entières? Et que fait cependant le juge qui a eu la barbarie de vous condamner à ce supplice? Il est à l'audience depuis 11 heures du matin, grelottant dans sa robe noire, qui écoute les patenôtes d'un avocat qui rabâche. Et pendant ce temps, la cathare aux griffes engourdies le saisit au poumon, ou l'engelure de sa dent aiguë le mord aux orteils. Et vous dites que vous n'êtes pas libre, au contraire, vous êtes 100 fois plus libre que dans votre maison. Toute votre journée vous appartient, vous vous levez, vous vous couchez quand il vous plaît, vous faites ce qui vous convient et vous n'êtes plus obligé de vous faire la barbe. Et voici Benjamin, par exemple, qui est prisonnier. Croyez-vous que Bantin lui ait joué un si mauvais tour en le faisant enfermer ici? Il était obligé de se lever souvent avant que les réverbères ne fussent éteints. Il allait, un bras à l'envers, de porte en porte, visiter la langue de celui-ci, expertiser le pouls de celui-là. Et quand il avait fini d'un côté, il fallait recommencer de l'autre. Il se crottait dans les chemins de travers jusqu'à sa queue, et son paysage n'avait la plupart du temps à lui offrir que du lait caillé et du pain violet. Et quand il était entré chez lui, bien harassé, qu'il était bien établi dans son lit, qu'il commençait à goûter les douceurs du premier sommeil, on venait l'éveiller brutalement pour aller au secours de monsieur le maire qui étouffait d'une indigestion ou de la femme du bailli qui accouchait de travers. Maintenant, le voici débarrassé de tout ce tracas. Il est ici comme le rat dans son fromage de Hollande. Bontin lui a fait une petite rente qu'il mange en philosophe. Mais c'est véritablement le pavot de l'évangile qui ne saigne ni ne purge et qui cependant est bien nourri, qui ne coud ni ne file et qui est vêtu d'une magnifique robe rouge. En vérité, nous sommes bien dupes de le plaindre et bien ennemis de son bien-être de chercher à le tirer d'ici. « On est bien ici, soit, répondit mon oncle. Mais j'aimerais tout autant être mal ailleurs. Cela ne m'empêche pas de convenir ainsi que vous me l'avez démontré, page. Non seulement que la prison est trop douce pour le riche, mais encore qu'elle l'est trop pour tout le monde. Bon, il est dur sans doute de crier à la loi quand elle flagelle un malheureux. Frappe plus fort, tu ne fais pas assez de mal. » Mais il faut bien se garder aussi de cette philanthropie inintelligente et myope qui ne voit rien au-delà de son infortune. De véritables philosophes comme Guillerand, comme Miorato, comme Parlantard, un mot, comme nous le sommes tous, ne doivent considérer les hommes qu'en masse, ainsi qu'on considère un champ de blé. C'est toujours du point de l'intérêt public qu'une question sociale doit être examinée. Vous vous êtes distingué par un beau fait d'armes, et le roi vous décore de la croix de Saint-Louis. Croyez-vous que c'est parce qu'il vous veut tous du bien, et dans l'intérêt de votre gloire individuelle, que sa majesté vous autorise à porter sa gracieuse effigie sur votre poitrine? Hélas, non, mon pauvre brave. C'est dans son intérêt d'abord, et ensuite dans celui de l'État. C'est pour ceux qui ont, comme vous, du sang chaud dans les veines, vous voyant si généreusement récompensé, imite votre exemple. Maintenant, au lieu d'une bonne action, c'est un crime que vous avez commis. Ah, ce ne sont plus 3 ou 4 hommes qui diffèrent de vous par le collet de leur habit. C'est un bon bourgeois de votre pays que vous avez tué. Alors le juge vous a condamné à mort et le roi a refusé de vous faire grâce. Il vous reste plus maintenant qu'à rédiger votre confession générale et à commencer votre complainte. Alors, quel sentiment a donc dicté au juge votre sentence? A-t-il voulu débarrasser la société de vous, comme quand on tue un chien enragé, ou vous punir comme quand on fouette un enfant maussade? D'abord, s'il eût voulu que vous retranchiez de la société, un cachot bien profond avec des portes bien épaisses et une meurtrière pour toute fenêtre suffisait très bien pour cela. Ensuite, le juge condamne souvent à la mort un homme qui a tenté de se suicider et à la prison un malheureux auquel il sait que la prison sera hospitalière. Est-ce donc pour les punir qu'il octroie à ces deux vauriens précisément ce qu'ils demandent? Qu'il fait à celui-ci pour lequel l'existence est une torture l'opération de la vie et qu'il accorde à celui-là qui n'a ni pain ni toit un lieu de refuge? Le juge ne veut qu'une chose, il veut effrayer par votre supplice ceux qui seraient tentés d'imiter votre exemple. Peuple, garde-toi de tuer, voilà tout ce que signifie votre sentence. Si vous pouviez mettre à votre place sous le couteau un mannequin qui vous ressemblât, cela serait aussi égal au juge. Et si même après que le bourreau vous a coupé la tête et l'a montré au peuple, il pouvait vous ressusciter, je suis bien sûr qu'il le ferait volontiers. Car au demeurant, le juge est bonhomme, et il ne voudrait pas que sa cuisinière tue un poulet sous ses yeux. Oh, crie bien haut, et vous le proclamez vous-même, qu'il vaut mieux absoudre 10 coupables que de condamner un innocent. C'est la plus déplorable des absurdités qu'ait enfantée la philanthropie à la mode. C'est un principe antisocial. Je soutiens, moi, qu'il vaut mieux condamner 10 innocents que d'absoudre un seul coupable. À ces mots, tous les convives crièrent à haut sur mon oncle. Non, parbleu, s'écria mon oncle, je ne plaisante pas, et ce sujet n'est pas de ceux à la face desquels on puisse rire. J'exprime une conviction ferme, puissante et depuis longtemps arrêtée. Toute la cité s'apitoie sur le sort d'un innocent qui monte à l'échafaud. Les gazettes retentissent de la lamentation et vos poètes le prennent pour le martyr de leur drame. Mais combien d'innocents périssent dans nos fleuves, sur vos grands chemins, dans le creux de vos mines et jusque dans vos ateliers, broyés sous la dent féroce de vos machines? Ces gigantesques animaux qui saisissent un homme par surprise et qui l'engloutissent sous vos yeux sans que vous puissiez lui porter secours. Cependant, leur mort vous arrache à peine une exclamation. Vous passez quelques pas plus loin, vous n'y pensez plus. Vous ne songez pas même en dînant à en parler à votre épouse. Le lendemain, la gazette l'enterre dans un coin de sa feuille. Elle jette sur lui quelques lignes de lourdes brevets, tout est fini. Pourquoi cette indifférence pour l'un et cette surabondance de pitié pour l'autre? Pourquoi sonner le glas de celui-ci avec une clochette et le glas de celui-là avec une grosse cloche? Un juge qui se trompe, est-ce un accident plus terrible qu'une diligence qui verse ou qu'une machine qui se détraque? Mes innocents à moi, ne font-ils pas un aussi grand trou que les vôtres dans la société? Ne laissent-ils pas comme les vôtres une femme veuve et des enfants d'orphelins? Oh, sans doute, il n'est pas agréable d'aller à l'échafaud pour un autre. Et moi qui vous parle, je conviens que si la chose m'arrivait, j'en serais très contrarié. Mais par rapport à la société, qu'est-ce que ce peu de sang que verse le bourreau? La goutte d'eau qui suinte d'un réservoir, le gland meurtri qui tombe d'un chêne. Un innocent condamné par un juge, c'est une conséquence de la distribution de la justice. Comme la chute d'un couvreur du haut d'une maison est la conséquence de ce que l'homme s'abrite sous un toit. Sur 1 000 bouteilles que coule un ouvrier, il en casse au moins une. Et sur 1 000 arrêts que rend un juge, il faudra qu'il en ait au moins un de travers. C'est un mal prévu, nécessaire, et contre lequel il n'y aurait d'autre remède que de supprimer toute justice. Soit une vieille femme qui épluche des lentilles. Et que diriez-vous d'elle si, dans la crainte d'en jeter une bonne à terre, elle conservait toutes les ordures qui s'y trouvent? N'en serait-il pas de même d'un juge qui, dans la crainte de condamner un innocent, absoudrait 10 coupables? Puis, la condamnation d'un innocent est chose rare, elle fait époque dans les annales de la justice. Il est presque impossible qu'il se réunisse contre un homme un concours fortuit de circonstances telles qu'elles fassent peser sur lui des charges dont il ne puisse se justifier. Quand bien même, du reste, il en serait ainsi. Je soutiens, moi, qu'il y a dans la pose de l'accusé, dans son regard, dans son geste, dans le son de sa voix, des éléments de conviction auxquels le juge ne peut se soustraire. Puis l'abandon d'innocence n'est qu'un malheur particulier, tandis que l'absolution d'un coupable est une calamité publique. Le crime écoute à la porte de vos salles d'audience. Il sait ce qui se passe, et il calcule les chances de salut que lui laisse votre indulgence. Il vous applaudit quand, par une circonspection exagérée, il vous voit absoudre un coupable, car c'est lui-même que vous absolvez. Il ne faut pas, sans doute, que la justice soit trop sévère. Mais quand elle est trop indulgente, elle abdique, qu'elle s'annule elle-même. Dès lors, les hommes prédestinés au crime s'abandonnent sans crainte à leurs instincts. Ils ne voient plus dans leurs rêves la face sinistre du bourreau. Entre eux et leurs victimes, il n'y a plus d'échafaud qui se dresse. Ils vous prennent votre argent pour peu qu'ils en aient besoin et votre vie pour peu qu'elle les gêne. Vous vous applaudissez, bonhomme, d'avoir sauvé un innocent de la hache, mais vous en avez fait périr 20 par le poignard. C'est 19 meurtres qui restent à votre compte. Et maintenant, je reviens à la prison. La prison, pour qu'elle aspire une salutaire terreur, doit être un lieu de gêne et de misère. Cependant, il y a en France 15 millions d'hommes qui sont plus misérables dans leur maison que le prisonnier sous vos verrous. Trop heureux l'homme des champs s'il connaissait son bonheur, dit le poète. Oh, cela est bon dans une églogue. L'homme des champs, c'est le chardon de la montagne. Il ne passe pas un ardent rayon de soleil qui ne le brûle, pas un souffle de bise qui ne le morde, pas une averse qui ne l'essuie. Il travaille depuis l'Angélus du matin jusqu'à celui du soir. Il a un vieux père et il ne peut adoucir pour lui les rigueurs de sa vieillesse. Il a une belle femme, il ne peut lui donner que des haillons. Il a des enfants, marmailles affamés, qui demandent incessamment du pain, et souvent il n'y a pas une miette dans la huche. Le prisonnier, au contraire, lui, est chaudement vêtu. Il est suffisamment nourri. Avant d'avoir un morceau de pain à mettre sous la dent, il n'est pas obligé de le gagner. Il rit, il chante, il joue, il dort tant qu'il veut sur sa paille, et s'il est encore l'objet de la pitié publique. Des personnes charitables s'organisent en société pour lui rendre sa prison moins rude. Et elles font si bien qu'au lieu d'une peine, elles lui en font une récompense. De belles dames font mijoter son pot et lui trempent sa soupe. Elles le moralisent avec du pain blanc et de la viande. Assurément, à la liberté besogneuse des champs ou de l'atelier, cet homme préférera la captivité insouciante et pleine de bon temps de la prison. La prison, ce doit être l'enfer de la cité. Je voudrais qu'elle s'élevât au milieu de la place publique, sombre et vêtue de noir comme le juge. Qu'à travers ses petites fenêtres grillées, elle jetât, comme de sinistres regards aux passants, qu'au lieu de chants, il ne surgît de son enceinte que des bruits de chaînes ou des aboiements de molosses, que le vieillard craignît de se reposer sous ses murs, que l'enfant osât jouer sous son ombre. Que le bourgeois attardé se détournât de son chemin pour l'éviter et s'éloigna d'elle comme il s'éloigne du cimetière. Ce n'est qu'à cette condition que vous obtiendrez de la prison le résultat que vous en attendez. Mon oncle discuterait peut-être encore si M. Minxit ne fût arrivé pour couper court à ses arguments. Le brave homme ruisselait de sueur. Il humait l'air comme un marsouin échoué sur la grève. Il était rouge comme la trousse de mon oncle. Benjamin, s'écria-t-il en s'essuyant le front, oh, je venais te chercher pour déjeuner avec moi. Et comment cela, monsieur Minxit? S'écrièrent tous les convives à la fois. Eh, parbleu, c'est que Benjamin est libre. Ah, voilà toute l'énigme. Ceci, ajouta-t-il en tirant un papier de sa poche et le remettant à Boutron, c'est la quittance de bon teint. Bravo, monsieur Minxit! Et tout le monde, se levant, le verre à la main, but à la santé de monsieur Minxit. Mâchecourt essaya de se lever, mais il retomba sur sa chaise. La joie lui avait fait perdre l'usage de ses sens. Benjamin jeta par hasard sur lui un coup d'œil. « Oh, ça, Mâchecourt !» s'exclama-t-il. « Est-ce que tu es fou ? Allez boire la santé de Minxit, ou je te saigne à l'instant même !» Mâchecourt se leva machinalement, vida son verre d'un seul trait et se mit à pleurer. « Bon, bon, monsieur Minxit, poursuivit Benjamin, que je... Bon, dit celui-ci, moi je vois ce que c'est. Tu te disposes à me remercier, eh bien, je t'en dispense, mon pauvre garçon. C'est pour mes beaux yeux et non pour les tiens que je te tire d'ici. Tu sais bien que je peux passer de toi. Allez, messieurs, dans toutes les actions qui vous paraissent les plus généreuses, il n'y a que de l'égoïsme. Si cette maxime n'est pas consolante, ce n'est pas ma faute, mais elle est vraie. Monsieur Boutron, fit le Benjamin, la quittance de bon teint est-elle en règle? Je n'y vois de défectueux qu'un gros pâté que l'honnête marchand de drap y a ajouté, sans doute pour paraphe. En ce cas, messieurs, dit Benjamin, permettez que j'aille annoncer moi-même cette bonne nouvelle à ma chère sœur. Je te suis, dit Mâchecourt, je veux être témoin de sa joie. Jamais je n'étais si heureux depuis le jour que Gaspard est venu au monde. Vous permettrez, dit M. Minxit, se mettant à table. Monsieur Boutron, un couvert. Du reste, messieurs, à char de revanche, ce soir je vous invite à souper à Corvol. Cette proposition fut accueillie avec acclamation par tous les convives. Après avoir déjeuné, ils se retirèrent au café, en attendant l'heure de partir.